La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'histoire et à la mémoire locale de la ville de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. En juillet 1940, suite à l'invasion de la France par les Allemands, la cité thermale devient la capitale provisoire du nouvel État français dirigé par le maréchal Pétain. Vichy est alors située à 4h30 de Paris par le chemin de fer par lequel circulent les dirigeants du gouvernement. Quels souvenirs les derniers témoins ont-ils gardé de ces 4 années singulières? Qu'est-ce que les archives locales nous apprennent sur la vie quotidienne des habitants? Entre pétainistes, collabos, hésitants ou résistants, quelle forme particulière de résistance s'est-elle inventée à Vichy? Après des années de silence et d'oubli, l'ex-capitale semble recouvrir la mémoire.
Revenant de sa résidence d'Île-de-France, le maréchal arrive à Vichy où il est accueilli à sa descente de voiture par le président Laval et les membres du gouvernement. Tandis que le maréchal rendait visite aux cités meurtries, M. Pierre Laval continuait d'assumer la lourde tâche qui, dans les heures que nous vivons, incombe au gouvernement. Puis le chef de l'État reçoit l'accueil ému et enthousiaste des Vichysois.
La marche du monde dans la ville de Vichy, avec l'historienne Audrey Mallet, auteur de Vichy contre Vichy, un livre qui fait date et qui pour la première fois s'intéresse de façon extrêmement large à la façon dont la ville de Vichy, mais aussi les Vichysois, ont vécu la période de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à la libération 1944. Audrey Mallet, j'aimerais tout d'abord savoir ce qui change pour cette ville de Vichy lorsque l'armistice est signé en 1940.
Donc, suite à l'armistice du 22 juin 1940, le gouvernement français décide de quitter Paris. Il s'installe d'abord à Tours, ensuite il va à Bordeaux sans savoir que la ville sera incluse dans la zone occupée suite à la division de la France en plusieurs zones occupées ou non occupées par les Allemands. Et Vichy va rester en zone libre, donc au sud de la ligne de démarcation. Le gouvernement qui est maintenant dirigé par le maréchal Pétain fuit Bordeaux et s'installe à Clermont-Ferrand. Et Vichy va finalement être choisi comme capitale provisoire à la fin du mois de juin. Le changement va devenir effectif début juillet pour plusieurs raisons. D'abord la position géographique au sud de la ligne de démarcation. Ensuite, il y a une gare avec une ligne directe entre Paris et Vichy. Il y a une centrale téléphonique qui est ultra moderne. Et il y a une offre d'hébergement exceptionnelle. Donc tous ces facteurs vont faire que Vichy va être choisi comme capitale provisoire.
Audrey Mallet, nous sommes au cœur des parcs de Vichy. Autour de nous, les grands hôtels. Derrière vous, l'opéra de Vichy. Où est-ce que le gouvernement s'installe et comment la ville est investie, non plus par la République française, mais par l'État français du maréchal Pétain?
Oui, nous sommes dans les parcs des sources, le cœur du quartier thermal de Vichy, le cœur culturel de la ville. À gauche de nous, il y a l'hôtel du parc qui va devenir le centre névralgique du régime, puisqu'il y a plusieurs ministères qui vont s'installer là-bas. Et le maréchal Pétain va réquisitionner plusieurs chambres qu'il va utiliser pour son usage personnel. Donc le maréchal va vivre dans cet hôtel jusqu'à la fin du mois d'août 1944, quand il sera amené de force par les Allemands à Belfort et ensuite à Sigmaringen.
Audrey Mallet, la ville de Vichy, depuis le début du siècle, est une ville extrêmement dynamique économiquement. C'est la reine des villes d'eau, c'est l'apogée du thermalisme entre les deux guerres pendant les années 30. Comment les Vichysois vivent-ils cette entrée en guerre, cet armistice, l'arrivée du gouvernement dans leur ville qui du coup devient capitale?
Et donc l'entrée en guerre de la France n'a pas d'impact réel sur l'économie thermale vichysoise, puisque la France entre en guerre en septembre 1939 et la saison est sur le point de s'achever. Donc les Vichysois ne ressentent pas de poids particulier. Tout change en 1940, bien sûr, avec l'arrivée des réfugiés tout d'abord et ensuite l'installation du gouvernement qui va marquer un terme au tourisme thermal jusqu'en 1945 et un petit peu au-delà. C'est un soulagement pour les Vichysois qui avaient peur de plus avoir d'emploi pendant les années de guerre. Et les réquisitions vont apporter des salaires assez confortables à un certain nombre de propriétaires qui louent leurs biens immobiliers à l'année. Puisqu'il faut savoir que les réquisitions étaient régies par des lois et qu'elles étaient payées. Donc ces hôteliers qui n'ont plus de curistes ont de nouveaux clients. Donc en 1940, c'est en quelque sorte un soulagement puisqu'il y a seulement l'Hôtel du Parc et le Majestic qui continuaient de recevoir des touristes.
Audrey Malais, ce qui est extrêmement intéressant dans vos travaux et avec votre livre « Vichy contre Vichy », c'est que pour la première fois, on a un point de vue sur la façon dont ici, dans cette ville de Vichy, les habitants, les Vichysoises, les Vichysois, ont vécu cette arrivée du gouvernement français, cette présence du maréchal Pétain, et donc leur vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour quelles raisons vous avez voulu éclairer cette part sombre et même silencieuse de l'histoire de France ?
Moi-même, je suis Vichysoise et j'ai grandi dans cette ville en sachant qu'elle avait joué un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai jamais réellement pu voir cette histoire dans l'architecture ou dans le paysage urbain de la ville. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de creuser cette question et de m'intéresser à la période à la fois de la guerre et de l'après-guerre pour voir comment cette mémoire avait été façonnée et pour quelles raisons elle avait été façonnée de cette façon.
Et c'est pourquoi vous vous êtes à la fois intéressée aux derniers témoins, celles et ceux qui ont vécu cette période de l'occupation à Vichy, mais aussi vous avez voulu travailler sur les archives locales, et ça c'est une grande première.
Quand on est historien, le mieux c'est de varier les sources qu'on utilise. Donc j'ai utilisé bien sûr des sources écrites, des sources administratives qu'on peut trouver dans les archives nationale, départementale. J'ai également travaillé avec des témoins. Il n'y en a plus beaucoup, mais j'en ai trouvé quelques-uns qui m'ont toujours accueilli de façon très généreuse. Et j'ai également fait des recherches dans les archives municipales de Vichy qui sont très peu connues des historiens, mais qui apportent des éléments très intéressants sur justement l'expérience locale de la guerre.
Alors, je suis née en 1929 et au moment de la déclaration en 1939, j'avais donc 10 ans.
La voix de Suzanne pour la Marche du Monde, pour la première fois, elle nous raconte sa jeunesse à Vichy.
Et je me souviens particulièrement du jour de la déclaration de guerre parce que j'étais en vacances chez mes grands-parents à Ébreuil et mon grand-père avait fait la guerre de 14 et quand on lui a annoncé ça. Il s'est assis et il s'est mis à pleurer. Et pour moi, c'est une image que je n'oublierai jamais.
Lorsque vous êtes une toute jeune fille de 10 ans,
oui.
Suzanne, où est-ce que vous vivez et que font vos parents ?
Alors, mes parents, mon père était donc garagiste, boulevard d'Aignières. Mon père a été mobilisé. Il a donc abandonné son garage, qui une première fois a été réquisitionné par l'armée française, ensuite à l'arrivée des Allemands par les Allemands, et par la suite, l'année suivante, ou en 43, par là, 43-44, la Gestapo, qui avait donc mobilisé le garage et emmené tout ce qui restait.
Dans votre vie quotidienne de petite fille,
oui.
Au début de la guerre, qu'est-ce qui change dans votre vie quotidienne à vous ?
Tout d'abord, moi, enfant, c'était l'alimentation. Je dois dire que on n'a pas souffert d'une façon exagérée à Vichy, mais c'était le rationnement pour beaucoup, beaucoup de choses. Et pour des enfants de notre âge, c'était quand même difficile à supporter.
Par exemple ?
Par exemple, le chocolat. Le beurre, aussi on n'avait pas de beurre, enfin, toutes les choses élémentaires et premières dont on servait pour les repas. Et puis le lait surtout aussi, on n'avait pas de lait. Ce sont des choses que je n'étais pas la seule à connaître, mais c'est des souvenirs d'enfants. À l'école, et puis après au collège, on nous distribuait du chocolat et du lait, mais du lait qui n'avait pas bien le goût de lait.
Comment avez-vous connu et quelle vision aviez-vous du maréchal Pétain ?
Alors là, c'était un petit peu difficile chez nous parce que mon grand-père adorait le maréchal Pétain, bien sûr. Il avait fait Verdun avec lui et pour lui, c'était son idole. Il venait tous les dimanches de Débreuil passer la journée avec nous et il m'emmenait à la sortie de la messe de Saint-Louis pour voir le maréchal. Bon, moi, je le suivais avec plaisir. J'aimais bien mon grand-père. Et puis, c'était pour moi une escapade, si vous voulez. Mais par contre, mon père était plus réticent vis-à-vis du maréchal.
Lorsque vous allez avec votre grand-père à la sortie de la messe, à l'église Saint-Louis, à Vichy, en 1940, en 1941, en 1942, comment ça se passe, cette sortie de la messe ?
Nous étions... Enfin, une foule, il y avait une foule hein, pour l'attendre sortir de la messe. On était sur le trottoir, bien sûr, et on attendait patiemment la sortie de la messe. Et donc, quand le maréchal apparaissait, c'était des vivas, des bravos, enfin bon, vive le maréchal, enfin, etc. Je me souviens de ça, parce que c'était des images encore très, très, très fortes. J'ai même défilé devant le maréchal Pétain. Oui, je faisais partie de la Vichysoise. À l'époque, c'était une association de gymnastique. Et nous allions défiler au stade devant le maréchal en chantant « Maréchal, nous voilà ». Vous avez dû entendre cette chanson. Et je me souviens de ça, au stade de Vichy. Je le revois dans les tribunes, si vous voulez, mais ça n'a pas été un souvenir très, très marquant. Pour moi, c'était de défiler. C'était tout, d'avoir mon ensemble de la Vichysoise et d'être avec mes copines. Le reste, je m'en souviens pas du tout.
Nous répète afin de nous unir. Français, levons la tête, regardons l'avenir. Nous brandissons la toile du drapeau immortel dans l'ordre des étoiles. Nous voyons luire un ciel. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France.
Le témoignage de Suzanne sur son enfance et son adolescence à Vichy, ici même, pendant l'occupation. Audrey Mallet, c'est très impressionnant lorsqu'elle raconte que petite fille, elle venait à quelques pas d'ici, devant l'église Saint-Louis, pour voir Pétain sortir de la messe le dimanche matin.
Oui, je pense que ce témoignage est représentatif de ce qui s'est passé à Vichy avec Pétain, à savoir cette mise en scène permanente. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se souvient de son image, pas de ce qu'il a dit. Pétain était un personnage physique qui était mis en scène de façon permanente à Vichy. La plupart des témoins se souviennent de cette aura qu'il véhiculait, de cette présence physique, mais pas des discours. C'est ce qui a contribué à créer une sorte de proximité avec la population vichysoise qui le voyait pas vraiment en tant que gouverneur de la France, mais plutôt en tant qu'homme, caractère, personnage.
Quelle était l'image qui était vendue, comment dire aujourd'hui, aux Vichysois et aux Français ?
L'image qui était vendue, bien sûr, c'était Pétain en tant que sauveur de la France. Alors la plupart des Français ont adhéré à ce discours dès 1940, mais à partir de 1941 et de façon plus nette 1942 et 1943, la majorité des Français se sont un petit peu détachés de cette image idyllique que le régime mettait en avant. Mais à Vichy, avec cette mise en scène permanente, les Vichysois, finalement, ils étaient très proches de Pétain, mais ne voyaient pas vraiment qui il était.
Ce qui me frappe également dans le témoignage de Suzanne, c'est son sentiment de peur, son sentiment d'avoir été surveillé. Mais elle dit toujours les Allemands. Pourtant, ce n'était pas que des soldats allemands qui occupaient la ville. Qui menait cette répression ?
Donc en novembre 1942, les Allemands envahissent la zone sud et s'installent dans beaucoup de villes, dont Vichy. Il y a un détachement allemand assez important. Et le siège de la Gestapo s'installe à l'hôtel du Portugal, qui est très près de l'hôtel du Parc, où était installé le gouvernement français. Et quelques mois après, il y a la milice qui est créée, et elle aussi s'installe à Vichy. Il y a un siège, le siège de la milice est également très proche d'où nous nous trouvons.
Et la milice, justement, ce sont des Français, donc au fond, Suzanne, dans son souvenir... Elle mélange les miliciens, les soldats allemands. Ce qu'elle retient, c'est la répression. Est-ce que cette ville de Vichy a particulièrement subi la surveillance, la présence militaire, la présence de la milice dans ces rues, dans la vie quotidienne des Vichysois ?
Oui, pour elle, l'existence d'une forte répression se symbolise par... l'image des Allemands, et c'est le cas pour beaucoup de Français qui, bien sûr, associent la répression aux Allemands, mais on sait que les organes de répression étaient divers et que certains d'entre eux émanaient du gouvernement français.
Et est-ce qu'ici à Vichy, cette présence répressive était plus visible ou plus importante qu'ailleurs ?
En tout cas, le risque de répression était plus présent à Vichy que dans certaines villes de la zone sud. Il y avait plusieurs hôtels à Vichy qui ont été réquisitionnés par la Gestapo et la milice, où les personnes qui étaient arrêtées étaient torturées de façon assez régulière. Et ça a marqué les Vichysois. Suzanne nous en a très bien parlé quand elle mentionnait les cris qui émanaient de l'hôtel du Portugal, siège de la Gestapo.
C'était une période quand même assez curieuse. On avait l'impression d'être isolé à Vichy, hein. Quand on allait à la campagne, par exemple, on avait l'impression que les gens nous faisaient presque des courbettes, si vous voulez, parce qu'on était de Vichy, du gouvernement de Vichy. Alors qu'après, vous savez ce qui s'est passé. Vichy était honni, c'était l'inverse.
Suzanne, vous aviez 13 ans en 1942. Vichy, votre ville, est à son tour occupée par les Allemands. Comme d'ailleurs toute la zone sud de la France. Est-ce que vous percevez des changements ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
On avait des amis à la Palice, qui étaient pour nous une seconde famille. C'était des amis depuis des décennies dans la famille. Donc le père avait été déporté avec son fils. Et on attendait tous les jours des nouvelles, on attendait leur retour. Et on a su qu'ils avaient été emprisonnés justement à l'hôtel du Portugal.
Vous voulez dire au siège de la Gestapo ?
Oui, c'est ça. Je me souviens que mes parents nous interdisaient de passer à proximité de cet hôtel du Portugal. Et j'ai su pourquoi, parce que j'avais peut-être des oreilles qui traînaient pas où il ne fallait pas, et qu'on entendait des cris. De prisonniers. Et mes parents ne voulaient pas qu'on entende ça, bien sûr. Je ne l'ai jamais entendu, moi. Mais c'était Léon-dit. Alors nos parents essayaient aussi, bien sûr, de nous protéger de ça. C'est quand même un peu marquant pour des enfants. À Vichy, on avait l'impression d'être surveillés, limités en liberté. Il y avait un silence. On ne pouvait pas dire « j'ai vu » ou « j'ai entendu ». À cette époque-là, on avait les informations de Vichy. Radio Vichy et Talmant, vous avez entendu ça ?
Oui, c'était la guerre des ondes. Et Philippe Henriot, c'était le secrétaire d'État à la propagande du régime de Vichy.
La radio anglaise nous disait « Philippe Henriot ment ». Ça, je l'ai entendu. c'était à nos risques et périls. Mais autrement, les discours de Philippe Henriot, on les entendait toute la journée. On n'entendait que ça. La vie du maréchal, où le maréchal allait, ce qu'il faisait, etc. Nos troupes qui n'existaient plus, les envahissements des Allemands partout, enfin, on entendait ça, c'était la grande gloire de l'Allemagne. Et puis je vous dis, moi j'ai dans l'oreille le ton de Philippe Henriot dans ses discours, je l'entends encore.
À la jeunesse de son temps, et c'est aux jeunes que je m'adresse, et particulièrement à mes camarades de la milice, qui depuis qu'ils se sont levés sur ce territoire français, ont fait à leur pays le seul sacrifice qui compte, celui de leur vie. Vous êtes décidés à savoir mourir, c'est bien. Êtes-vous décidés à savoir vivre? Car il s'agit de se souvenir qu'il faut quelquefois plus d'héroïsme pour vivre que pour mourir. Pour mourir, il suffit du consentement donné d'un seul coup. Mais pour vivre, il faut la volonté de recharger chaque matin sur ses épaules le fardeau écrasant et décourageant d'une tâche surhumaine et de le porter une étape de plus en attendant de recommencer le lendemain matin.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ainsi se termine la réunion au cours de laquelle M. Philippe Henriot a prononcé un important discours politique du gouvernement.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, on va en sortir?
Oui.
Et vous, en tant qu'adolescente, même si vous n'avez pas conscience de tout, même si vous vivez cette Seconde Guerre mondiale et cette occupation à hauteur d'adolescente,
Quels
sont vos sentiments? Vous êtes meurtrie, vous êtes peinée, vous en avez marre, vous êtes révoltée. Quels sont vos sentiments, Suzanne? Vous avez quand même déjà 15 ans.
On a commencé de se rendre compte qu'il y avait un changement parce qu'ils s'en allaient, les Allemands, petit à petit. Ils ont déménagé du garage chez nous, début 44, quelque chose comme ça. Et je me souviens de mon père, puisqu'il était donc mobilisé plus près, qui essayait d'écouter la radio tous les jours. Il espérait quelque chose, lui aussi, donc il attendait. Et nous aussi, mais on ne savait pas bien quoi. Mais je me souviens quand même des Allemands partant du garage, vous voyez, rassemblant tout ce qu'ils avaient, enfin, etc., et s'en allant. Et ça n'a bien fini qu'au débarquement. Enfin, on a quand même compris qu'il y avait quelque chose là d'important qui s'était passé.
Tout ce que vous n'aviez pas compris parce que vous étiez gamine, tout ce qui ne se disait pas parce que c'était dangereux, est-ce que ça a fini par se dire ou est-ce que c'est resté dans le silence?
Oui, ça a fini par se dire, si vous voulez, à partir du moment où on a déménagé à Saint-Yor, puisque mon père avait été nommé ailleurs. Et là, l'environnement était différent. Je pense qu'à la campagne, enfin c'était la campagne entre guillemets, c'était pas bien loin Saint-Yor, mais les gens avaient vécu différemment qu'à Vichy même. Et donc les discussions, les gens qu'on côtoyait n'avaient pas vécu la guerre comme à Vichy. On avait l'impression d'être préservés à Vichy. Je comprenais pas bien cette différence. On l'a compris, bien sûr, après, quand on a eu cette révélation sur toutes ces déportations, tous ces gens qui avaient quitté leur foyer, etc. Là, j'ai commencé à comprendre parce que, à 18 ans, quand même, j'avais des amis juifs. J'en avais un plus particulièrement qui a dû se faire arrêter à Vichy même, qui a été déporté et qui n'est jamais revenu aussi. Et je me souviens qu'à ce moment-là, on a parlé des Juifs. Il avait été arrêté à Vichy parce qu'il avait l'étoile jaune. Je n'avais jamais entendu parler de ça non plus, je ne savais pas ce que c'était. Donc, avec mes parents, des amis, bon, on en a parlé un peu plus librement. Et puis, la radio, quand même, commençait à fonctionner autrement. Et donc, les écrits et tout ce qu'on a pu lire. Et puis aussi, au lycée quand même, on avait d'autres conversations, plus, pas adultes, mais enfin plus, un peu plus évoluées, disons.
Et c'est là que vous avez commencé à vous poser vraiment des questions?
Oui, on s'est posé des questions, enfin moi personnellement. Et puis petit à petit, il y a eu la presse aussi qui a été quand même importante, parce qu'elle a été libérée aussi, la presse, à Vichy, c'était bouche cousue. Il n'y avait que, la presse vichysoise qui marchait. Par la presse, partout, tout ce qu'on a entendu, les récits des uns et des autres, là, ça s'est quand même éclairci. Mais il a fallu longtemps, enfin, moi, je trouve que c'était long, si vous voulez, j'avais, admettons, une vingtaine d'années, où j'ai vraiment compris ce qu'avait été cette guerre.
Donc, il a fallu attendre quasiment les années 50.
Oh oui, oui, à peu près, oui, à peu près.
En même temps, on peut comprendre qu'après la libération,
oui,
les gens expriment.
Bien sûr, mais...
Dans votre famille, qu'est-ce qui s'est exprimé après la libération?
On attendait la libération de nos amis qui avaient été déportés. Le jeune n'est pas revenu, le père est revenu, mais pas le jeune. Et ça aussi, je m'en souviens, quand on est allé l'accueillir à la Palice, donc, et je me le revois avec ce costume rayé, vous savez, des déportés.
Et est-ce que vous l'avez reconnu?
Je l'ai reconnu difficilement parce qu'il était d'une maigreur indescriptible. Mais sa voix n'avait pas changé. Et puis, sa façon d'être, c'était la bonté même. Et ça a été un souvenir douloureux. Et j'en ai encore le souvenir comme ça. C'était une journée qui a été très dure. Pour moi, étant toute jeune, quoi. Mais on était heureux de le revoir aussi. Et on attendait que son fils revienne, mais il n'est pas revenu.
Audrey Mallet, c'est très émouvant d'entendre Suzanne retrouver à la fin de la guerre cette famille juive qui avait été déportée comme tant de familles françaises et étrangères juives. Et elle commence à comprendre au fond, à la fin de la guerre, ce qui s'est passé, la déportation, l'extermination et la complicité de l'État français dirigé par Pétain. Comment ça s'est passé, justement, pour les Juifs, ici, à Vichy? Comment les lois anti-juives ont-elles été appliquées? Et est-ce que, de par cette présence répressive très importante, est-ce que, au fond, il y a eu plus de rafles, plus de déportations des Juifs résidant à Vichy qu'ailleurs en France?
Alors, la discrimination contre les Juifs dans la ville de Vichy a commencé extrêmement tôt, puisque le gouvernement français a décidé d'exclure les Juifs étrangers de la ville dès l'été 1940. Donc, il y a des documents aux archives qui nous montrent qu'entre août et octobre 1940, pratiquement 3500 Juifs étrangers qui étaient venus chercher refuge à Vichy ont été expulsés de la ville. Et ces expulsions ont continué dans les mois qui ont suivi, et à partir de juin 1941, les Juifs français étaient également concernés par ces mesures d'expulsion. Donc le nombre de Juifs a diminué de façon exceptionnelle à Vichy. Entre 1941 et 1943, il y a eu une baisse de 70%, qui est exceptionnelle quand on compare avec ce qui s'est passé ailleurs en zone sud. Ces expulsions ont eu pour effet de faire diminuer, bien sûr, la population juive, ce qui fait que quand les rafles ont commencé en 1942 et ont continué en 1943, il n'y avait pas beaucoup de juifs à Vichy, donc il y a eu assez peu, en proportion, bien sûr, d'arrestations à Vichy. Et au total, il y a 142 juifs qui ont été arrêtés à Vichy et déportés et tués. Donc en proportion, ça peut paraître très peu, puisqu'on parle de milliers de Juifs qui sont venus se réfugier à Vichy. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures mises en place par le gouvernement français ont été discriminantes dès 1940, dans le sens où ces Juifs qui ont été expulsés ont dû trouver un refuge ailleurs et perdre ses repères et perdre ses réseaux. C'est ce qui a fait que ces Juifs sont devenus des proies faciles pour la Gestapo et la milice dans les années qui ont suivi.
Donc une fois de plus, vous démontez un mythe, Audrey Mallet, tout ce discours selon lequel Pétain aurait été bienveillant à l'égard des Juifs français. Qu'en pensez-vous ?
Alors Pétain et le gouvernement ont protégé certains Juifs qu'ils connaissaient personnellement. Contrairement à une certaine idée reçue, le gouvernement français n'a pas agi pour protéger les Juifs français. Ce qui s'est passé à Vichy, les politiques d'expulsion qui ont été mises en place très rapidement le prouvent.
Aucune ambiguïté dans vos propos, Audrey Mallet. La politique menée par le maréchal Pétain est bien anti-juive. L'État français collabore avec les nazis et facilite la mise en œuvre de la solution finale. Mais dans cette ville de Vichy, ici comme ailleurs, la plupart des gens, à l'image du témoignage de Suzanne, étaient loin de pouvoir l'imaginer. Ils ne l'ont compris que beaucoup plus tard.
France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur.
La marche du monde est dans la ville de Vichy, sur les traces de la mémoire et de l'histoire locale de la Seconde Guerre mondiale, afin de comprendre comment les habitants, mais aussi la municipalité, ont fait face à la présence du gouvernement de Pétain et de l'État français entre 1940 et 1944. Une histoire locale à découvrir aux archives intercommunales, où sa directrice nous ouvre ses armoires pleines de dossiers sur lesquels on peut lire les mots « rationnement », réquisition ou encore réfugiés, puisque des dizaines de lettres extrêmement émouvantes ont été adressées au maire de Vichy de la part de femmes et d'hommes à la recherche des membres de leur famille disparus pendant l'exode.
Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
Aurélie Duchézeau, donc nous sommes ici au milieu de vos cartons d'archives, dans votre magasin avec les documents de la municipalité de Vichy, devenue capitale de la France pendant cette période de 1940-1944. Est-ce que cette histoire nationale, on peut la retrouver dans les archives municipales ?
Oui, forcément, il y a des traces, même si elles peuvent parfois être ténues, on va dire, mais il y a forcément des traces dans les documents. L'État français a résidé dans notre ville pendant 4 ans. Il y avait des relations quasi quotidiennes entre les dignitaires du régime et la municipalité de Vichy. Forcément, il y a des traces dans les archives.
Là, par exemple, vous avez sorti ce registre. Alors, c'est un registre de police et de taxes de séjour, qu'est-ce que c'est ?
Alors en fait, c'était les registres qui étaient tenus par les hôteliers ou les loueurs de meublés dans la ville, dans lequel ils inscrivaient toutes les personnes qui venaient résider dans leur établissement et qui s'acquittaient de ce droit, de cette taxe de séjour hein, qui existe encore actuellement. Et ce registre, je l'ai trouvé par hasard hein, il y a quelques années. Nous en avons évidemment des centaines de ces registres, hein, vu le nombre d'hôtels et de meublés à Vichy. Et par hasard, je suis tombée sur celui-ci, d'un meublé qui s'est situé à l'époque 20 rue Nationale, le meublé de Jean Renaud. Jean Renaud qui a inscrit le nom de François Mitterrand, qui est arrivé dans son établissement le 1er mars 1942.
Alors, François Mitterrand, qui a été président de la République de la France en 1981, et dont justement les jeunes années font polémique. Alors, sur le registre, il y a marqué profession, hein, puisque tous les résidents du meublé, effectivement, il y a leur nom de famille qui est inscrit, il y a leur profession, et là on lit rédacteur, directoire, Légion. Audrey Malet, qu'est-ce que ça veut dire ?
François Mitterrand est arrivé à Vichy en janvier 1942 et il a assez rapidement trouvé un emploi à la Légion française des combattants, qui a été créée en août 1940 et qui représente l'ordre nouveau que le gouvernement souhaitait instaurer à l'époque. Et ses membres constituent les plus fidèles soutiens du maréchal. Et son rôle de propagande était immense. Et donc Mitterrand, quand il arrive à Vichy, il a quelques contacts et il est embauché à la Légion au service de documentation, qui est en fait un service de renseignement dont l'objectif était de recueillir des informations sur ce qu'on appelait les antinationaux. Donc ça veut dire les communistes et les gaullistes. Et donc il a bien travaillé pour l'État français, ce qui ne l'a pas empêché de monter un mouvement de résistance en 1943, l'un n'empêchant pas l'autre, contrairement à ce que certaines personnes croyaient ou continuent de croire.
Absolument, c'est assez surprenant et compliqué de se dire qu'on peut être à la fois au service de l'État français, hein, ce n'est plus la République française, la République c'est terminé, c'est l'État français, un État qui est en collaboration avec l'ennemi, hein, avec les Allemands, et qu'en même temps, on peut être un résistant. Parce que, logiquement, on se dit, à Vichy, il y avait des résistants et des collabos.
Alors, à Vichy, il y avait des résistants et des collabos. La résistance était motivée par plusieurs facteurs. Elle était d'une nature différente et elle a évolué différemment tout au long de la guerre. Et il y a certaines personnes qui refusaient l'occupation allemande, mais qui ne s'opposaient pas forcément au régime et au gouvernement français et qui ont soutenu la Révolution nationale, mais qui, tout en soutenant la Révolution nationale, ont essayé de mettre en place des réseaux pour se battre contre les Allemands. Donc ces personnes-là, on les appelle communément les vichisto-résistants. C'est Denis Péjanski qui a inventé ce terme dans les années 90. Et Mitterrand en est le parfait exemple, puisqu'il a travaillé pour le gouvernement du maréchal Pétain et a participé à la création d'un mouvement de résistance en 1943. Et ce qui est intéressant, c'est que la vichisto-résistance était très développée à Vichy. On imagine pourquoi, puisque le gouvernement était là, les ministères étaient là. Il y a beaucoup de personnes qui travaillaient à l'intérieur de ces ministères qui ont participé au réseau de résistance, de vichisto-résistants. Le plus connu, c'est sûrement Alliance. Et ces réseaux recrutés parmi la population civile, donc parmi les Vichysois. Donc il y a beaucoup de Vichysois qui se sont impliqués dans ces réseaux de résistance.
Est-ce que ce n'est pas particulièrement compliqué d'établir qu'un soutien au maréchal Pétain ou un membre de son administration est également un résistant, Audrey Malet ?
Je pense que l'essence même du travail de l'historien, c'est de mettre en lumière ces zones floues, justement, puisque c'est jamais ni tout noir ni tout blanc. Et les vichisto-résistants nous montrent que les parcours des résistants ont été divers et variés, qu'ils ont évolué tout au long de la guerre. Il y a des vichisto-résistants qui ont cessé de soutenir la politique du maréchal Pétain à partir de 1942-1943. Il y en a d'autres qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Donc l'important, c'est vraiment de mettre en avant tous ces parcours qui nous montrent une nature extrêmement complexe de la résistance. On a tendance à considérer la résistance, je ne sais pas, gaulliste et communiste, comme étant les deux seules sources de résistance. Mais c'est en effet bien plus compliqué que ça.
Et c'est aussi grâce à vos recherches, Audrey Malet, que l'on peut mieux comprendre cette dimension de la résistance à Vichy.
Oui, la résistance à Vichy a été diverse, comme partout ailleurs, mais la présence de réseaux vichisto-résistants a fait que, bien sûr, la plupart des Vichysois qui ont voulu aider la résistance l'ont fait à partir ou à travers ces réseaux vichisto-résistants. Et donc, après la guerre, ce sont vraiment les mythes gaullistes et communistes qui ont dominé l'espace public. Donc, la mémoire vichisto-résistante a complètement disparu. Et ça a été assez difficile pour les Vichysois de se retrouver dans les récits gaullistes et communistes puisque ça ne correspondait pas vraiment à ce que eux avait connu. Par exemple, Jean Sabatier, qui était un dentiste qui a aidé le réseau Alliance et qui fournissait des informations et qui malheureusement a été arrêté dans son cabinet en compagnie de plusieurs de ses employés et de ses amis. Et après avoir été conduit au siège de la Gestapo, il sera finalement exécuté en novembre 1944.
Je ne soignerai plus les caries des enfants. Je ne me pencherai plus vers eux en leur conseillant le sourire complice, mais la voix sévère de ne plus croquer de sucre d'orge. Je ne pourrai plus aider les vieillards à retrouver le goût de la viande en soignant leurs dentiers. Je n'arracherai plus les dents de sagesse des adolescents. J'étais chirurgien dentiste. Je m'appelle Jean Sabatier. Mes amis me connaissent sous mon pseudo, V11, bis. Mes ennemis aussi.
Le comédien et metteur en scène Fabrice Dubusset rend hommage à Jean Sabatier en écho à son spectacle 13, écrit avec Shoshana Boukobza, pour rendre mémoire à 13 déportés, résistants ou indésirables, dont le destin a basculé ici, à Vichy.
Soudain, la porte s'ouvre. Hugo Geisler, chef de la Gestapo, entre dans ma cellule. Il est venu m'apprendre l'arrestation de l'aviateur Pierre Berthomier. Il y a quelques mois, Berthomier, code goéland, avait proposé à l'intelligence service de kidnapper Laval ou Pétain. Le projet, hélas, avait dû être abandonné à cause d'une fuite. Geisler me demande si je suis prêt à collaborer. Je ne réponds pas. Pendant qu'on me torture, je prie de toutes mes forces pour ne pas lâcher les noms. Je récite d'une voix rauque tout ce que je sais de la dentisterie. Je hurle. Écarteur, ciseaux, spatule, bistouri, davier. Ils hurlent « Ta gueule! Ta gueule! Tu vas te mettre à table, dis !» Je m'évanouis. On me lance un seau d'eau glacée au visage. Ils recommencent à me corriger. J'appelle ma mère. Je redeviens un petit enfant. Un tout petit enfant, effrayé par la douleur.
Fabrice Dubusset, en tant que metteur en scène de la compagnie Procès des Zèbres, il y avait une sorte de silence sur ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, ici à Vichy. Ce silence-là, cette espèce de tabou, c'est quelque chose que vous avez ressenti, vous ?
Oui, alors moi je l'avais ressenti bien avant la création, hein, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de traces, qu'à Vichy on avait du mal à identifier ce qui s'était passé réellement pendant cette période-là, et la nécessité à cette mémoire collective de pouvoir se plonger dans son passé, dans son histoire, et aussi de donner à la population de Vichy et de l'agglomération des éléments de réponse, parce que justement beaucoup de fantasmes, beaucoup de trous de mémoire, j'allais dire, puisque c'est un peu le même terme qu'au théâtre, mais en fait c'est une réalité, c'était une réalité cette notion de trou de mémoire.
Faire entendre la résistance, faire entendre l'itinéraire de personnes juives, tout ce travail de mémoire, Fabrice Dubusset, vous le menez depuis de longues années avec le Procès des Zèbres théâtre, mais pour autant, a-t-il été jusqu'à présent suffisamment entendu ? Est-ce que cette ville silencieuse est en train de lever finalement ce tabou de la mémoire de l'État français ?
On souhaite évidemment que ça soit enfin levé, hein, puisque je crois qu'il y a encore beaucoup de trous de mémoire, il y a encore beaucoup d'endroits où on aurait besoin d'éclaircir un peu ce qui s'est passé vraiment. Et je crois que il faut profiter peut-être de cet élan, il faut profiter aussi le fait de la constitution de différentes associations maintenant qui se mettent en route, en charge pour pouvoir en parler, pour pouvoir être à la fois avoir un rôle scientifique. Mais je crois que le théâtre a son rôle à jouer dans ce travail de mémoire, aussi par rapport vis-à-vis de la jeunesse, parce qu'il y a un aspect pédagogique qui est très important, c'est-à-dire qu'un cours d'histoire en direct, c'est quelque chose qui est irremplaçable.
Je suis née à Saint-Aubin-les-Préaux. À 32 ans, j'épouse Gaston Gélis, un journaliste. Gaston répète que Pétain a vendu la France au chacal. L'avenir lui donne raison. La feuille d'avis de Neuchâtel, un journal suisse, m'emploie comme journaliste. J'écris que la France est divisée, morcelée, que chaque clan surveille et dénonce les autres, que les camps se multiplient, que la chasse à l'homme est ouverte. Tu es communiste, tu es arrêté. Tu es étranger, tu es arrêté. Tu es juif, tu es arrêté. Gaston noircit de sa colère des cahiers, des feuilles volantes. Et bientôt, écrire ne suffit plus. Ensemble, nous entrons en résistance.
Nous, on a la chance de pouvoir travailler avec d'autres pays et de pouvoir ramener aussi notre jeunesse qui va pouvoir partager sa mémoire, la Roumanie, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. Ça, c'est aussi pour nous important de sentir que Vichy doit être un centre important pour la mémoire.
La marche du monde à Vichy, sur les traces de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que aujourd'hui les Vichysois, Audrey Mallet, puisque c'est un peu la troisième génération, vous en êtes un exemple extraordinaire, vous pourriez être l'arrière-petite-fille de Suzanne, qui a témoigné dans notre émission. Est-ce qu'aujourd'hui les Vichysois sont curieux de cette période? Est-ce qu'aujourd'hui les Vichysois ont envie de savoir ce qui s'est passé localement pendant la Seconde Guerre mondiale ici à Vichy?
Oui, je pense qu'il y a un désir d'en savoir plus sur la ville pendant la guerre. Depuis quelques années, on assiste à plein d'initiatives personnelles qui visent à ramener justement cette mémoire à Vichy. Et le travail de Fabrice Dubusset en est un exemple exceptionnel.
Allez, on réexplique encore une fois, parce qu'il faut toujours faire de la pédagogie, quelle est la différence entre vichysois et vichiste.
Et donc un vichysois, c'est une personne qui vit à Vichy. Et un vichiste, c'est une personne qui a soutenu le régime de Vichy, donc le gouvernement du maréchal Pétain. Donc un vichysois peut être vichiste, mais un vichiste n'est pas forcément vichysois.
C'est très clair. Et en ce qui concerne la municipalité Audrey Mallet, est-ce que, à l'image des vichysois, le changement est en marche?
Alors, la nouvelle municipalité de Frédéric Aguilera, en place depuis 2017, semble être en effet prête à entamer ce travail historique et mémoriel.
Donc ce ne sera plus Vichy contre Vichy?
Alors ce sera peut-être Vichy avec Vichy.
Ainsi s'achève La Marche du Monde, enregistrée à Vichy, en partenariat avec les éditions Belin, pour le livre d'Audrey Mallet, Vichy contre Vichy. Je vous recommande également son application à télécharger dans votre téléphone, Vichy 1939-1945 avec RFI. Il me reste à remercier chaleureusement Suzanne, notre grand témoin, Aurélie Duchézeau, aux archives intercommunales, Fabrice Dubusset et Frédéric Mille de la compagnie théâtrale Procès des Zèbres. Cette émission réalisée par Sophie Janin et Richard Rifono, c'est la vôtre.